J'aimerais reprendre avec vous ce matin le message de nouvelle année, de cette année 2024, et qui portait, vous le savez, sur ce passage de l'évangile de Jean, la femme adultère. Alors, je vais me dire que c'est un drôle de passage pour une nouvelle année. Mais c'est parce que, je vous avais dit en introduction la semaine passée, que je pensais qu'il fallait peut-être définir plus précisément l'équilibre entre les notions de vérité et d'amour qui sont omniprésentes dans l'Évangile et qui sont, faut-il le dire, fondements de notre foi. Je vous invite donc à reprendre le texte, parce que je pense que c'est important de se le remettre encore une fois en mémoire. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ?» Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et il se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Rappelez-vous, je vous avais dit que cette question, me semble-t-il, « Et toi, que dis-tu » dans beaucoup de cas de nos vies relationnelles, c'est une question qui va nous être posée souvent. Que fait-on avec celui qui passe par des moments difficiles ? Que fait-on avec celui ou celle qui court, pour le dire comme, simplement un peu à côté de ses pompes par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un peu ça la trame de ce récit, de ce terrible récit. Je rappelle quand même au passage que cette femme risque la mort, hein, ni plus ni moins. La question est donc posée, cette question est fondamentale, et je pense qu'elle est vraiment prioritaire. Et c'est cette question-là, me semble-t-il encore une fois, que pose le texte. Et cette question la voici, un pécheur peut-il raisonnablement juger un autre pécheur en ne s'armant que de la seule vérité biblique ? C'est une question importante parce que dans beaucoup d'églises, c'est ça qu'on se contente de faire. Alors, je vais à ce stade me permettre un postulat. Nous vivons en permanence avec des références théologiques à l'intérieur de nous, ce que nous croyons, et que nous acceptons comme vrai par la foi. Mais sans toujours comprendre que ces choses que nous croyons profondément ne sont réconciliables qu'en Dieu. Et c'est le cas, à mon sens, de ces deux expressions de l'être de Dieu, que sont son amour et sa vérité. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, je définis la vérité comme le Christ incarné, vraie parole de Dieu, sortie du vrai Dieu, et aussi la parole écrite, hein, en l'occurrence ici la Torah, la loi de Moïse. Et l'amour, ben encore une fois, l'expression première et fondamentale de l'être profond de Dieu qui est aussi révélé au travers de l'incarnation du Fils, donc de Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin, n'a pas à choisir entre sa justice et son amour, entre son amour et la vérité, mais nous, sans doute. Il faut choisir ses combats, il faut choisir ses armes. Il faut en fait décider de notre vocation, c'est-à-dire de la vocation que Dieu nous donne à vivre en tant que fils et fille de Dieu. C'est ce qu'a fait François Varillon. Vous savez que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, un prêtre jésuite, hein, comme quoi hein, le Seigneur fait des grandes choses. Hein. Un pasteur protestant qui cite un prêtre jésuite. Ignace de Loyola est quand même le chantre de la contre-réforme au XVIe siècle. Mais comme nous ne sommes pas rancuniers, hein, on prend ce qu'il y a à prendre chez Ignace aussi. Déjà, quand tu t'appelles Ignace, il faut avoir beaucoup de compréhension. C'est bien les références, Fernandel. Donc, de quoi va-t-il parler ? En fait, Varillon a un problème aussi de réconciliation de toutes les dimensions de l'être de Dieu. Il va plus particulièrement plancher, mais vous allez voir que la mécanique de sa pensée va nous aider à comprendre notre texte aussi. Il va donc particulièrement plancher dans un de ses livres, La souffrance de Dieu, sur l'impassibilité de Dieu et sa souffrance. Parce que la Bible dit les deux. Dieu est impassible, mais il souffre. Comment vous faites pour réconcilier ça, vous ? Comment Dieu pourrait-il être Dieu et ne pas être impassible ? Comment Dieu pourrait-il être amour et ne pas souffrir ? Dès que vous décidez d'aimer, vous décidez de souffrir. Car qui aime qui fait le choix d'aimer ou qui n'a pas le choix ? Qui est contraint par son amour ? C'est par exemple la position d'un théologien très connu que vous connaissez tous, sans doute, un Jürgen Moltmann, n'essayez pas de lire, hein, ça va bon, non, qui dit que Dieu est contraint par son amour. Quiconque donc décide de souffrir ou est contraint par son amour est contraint à la souffrance. Et même, admettons, suivez-moi, hein, je sais bien que ce n'est pas facile, mais et même si l'impassibilité de Dieu peut être comprise dans le sens que sa souffrance ne l'empêche pas de faire son job de Dieu. Quand nous souffrons physiquement ou à un autre niveau, ça impacte toutes nos autres relations, toutes nos autres capacités cognitives et autres. Dieu, ça ne l'impacte pas. On peut définir son impassibilité comme ça. Il souffre, mais ça ne l'abat pas. On va le dire comme ça, pour faire simple. Même si on le définit comme ça, ou que même certains théologiens précautionneux préfèrent parler du concept de compassion plutôt que de celui de souffrance, ces deux dimensions, impassibilité et souffrance, conforment à la vérité qui nous est révélée et ne posant aucun problème à notre Seigneur, nous en posent un solide à chacun d'entre nous dans la pratique, quand on y réfléchit. J'accepte les deux par la foi, mais je ne peux pas en vivre. Et si je ne peux pas, à mon tour, incarner les deux, comment vivre ma vie de disciple de Christ ? Alors voilà comment Varillon a résolu ce conflit intérieur majeur pour lui et pour nous. Il a choisi, et j'insiste sur le verbe choisir, il a choisi de croire en un Dieu qui souffre uniquement. Et voilà comment il le rend. Alors cette phrase, je l'ai déjà utilisée dans d'autres contextes. Je fais le décodage juste après, si vous êtes sage. Hein. Pour moi, cette phrase est d'une profondeur, mais invraisemblable. Hein. Dans vos têtes, je suis... Enfin, soit. Croire en un Dieu qui souffre. J'ai mis des petites parenthèses pour vous aider à comprendre, mais je ne suis pas sûr que ça va aider dans l'absolu. Mais croire en un Dieu qui souffre, c'est rendre le mystère plus mystérieux, mais de façon lumineuse. C'est chasser une fausse clarté, l'impassibilité, pour lui substituer d'éclatantes ténèbres, la souffrance de Dieu. Vous avez une heure. Donc, essayez de résumer sa pensée. C'est comique qu'on passe sa vie à expliquer les explications que Dieu donne d'explications. C'est incroyable. Hein, François Varillon est conscient qu'il ne... C'est pour ça qu'il s'exprime comme ça. Il est conscient qu'il ne résout pas la tension entre les deux pôles qu'il évoque, hein, entre la souffrance de Dieu et son impassibilité. En tout cas, théologiquement parlant, il sait très bien qu'il réinvente pas l'eau chaude et que cette tension est toujours là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle d'éclatantes ténèbres. Il ne dit pas que parce qu'il a choisi de croire uniquement en Dieu qui souffre, que tout s'illumine théologiquement. Ben non, parce que vous ne pouvez pas dégager l'impassibilité d'un revers de la main. Mais vous ne pouvez pas en vivre non plus. Donc que fait-il ? Il choisit de se positionner uniquement dans la souffrance, donc dans l'amour de Dieu. Donc par son choix, parce qu'il s'en est un, il peut enfin vivre sa relation à Dieu et aux autres de manière plus intime et apaisée, et vivre de cette vérité dépouillée, de cet amour divin uniquement. Ça va, Pourtant, j'ai fait simple. Alors, gardons le cheminement à l'esprit. Alors, si je vous ai perdu en route, ça va être compliqué. Hein, mais... Donc, gardons le cheminement à l'esprit. Et revenons à notre thème, amour-vérité. C'est la même mécanique qui est à l'œuvre. Alors, prenons, je vais vraiment faire simple. Prenons l'exemple d'un enfant. OK ? On lui dit qu'on l'aime. J'espère que vous lui dites. Hein. On lui dit qu'on l'aime. On le lui prouve même, et puis, à un moment donné, il faut qu'on le punisse, qu'on lui dise la vérité sur son compte, pour son bien. Alors, tout se fait ça. Qu'on en soit conscient ou pas, le fait de le punir va provoquer un séisme dans la compréhension qu'il a de son environnement affectif. Tous les pédopsychiatres sont d'accord pour dire qu'il faut 4 paroles positives adressées à l'enfant dans les heures qui suivent une remarque négative. Qui fait ça ? Moi, pas. Moi, je ne l'ai pas fait. Une parole positive après, oui. Peut-être même 2, jamais compté. Hein. Mais 4, dans quel film, franchement ? Alors, pourquoi ? Pourquoi l'enfant est tellement impacté par ça ? Parce qu'il faut reconstruire l'image qu'il a de lui-même et qui peut se résumer dès lors à une question « Est-ce que je suis encore aimé ?» Que l'enfant en doute et c'est la catastrophe. La question doit se poser dans l'exercice de ce que nous appelons encore souvent dans l'Église, et je déteste ce terme, la discipline. Comment, sur quelle base peut-on dire la vérité à l'autre ? Jésus dit « Je suis venu appeler des pécheurs ». Et encore une fois, c'est ce que nous sommes tous encore. Alors, est-ce notre connaissance de la seule vérité biblique, encore une fois, qui nous donne la légitimité d'entrer dans les ténèbres de l'autre ? C'est important la connaissance, hein ? Je ne dis pas le contraire, c'est important la connaissance. Mais il y a parfois une distance aussi grande entre l'intellect et le cœur qu'entre le paradis et l'enfer. Alors peut-être est-ce la vertu ? Je suis vertueux, donc ça me donne le droit de rentrer dans les ténèbres de l'autre. Alors ce serait bien la vertu, car étymologiquement, la vertu est enfant de la vérité. Vertu, ça vient de vérité. Hein. Seulement voilà, ce n'est jamais seul que l'on va vers l'autre, mes amis. Hein. On y va accompagné de tout ce qui fait que nous sommes nous. Emmanuel Kant disait ça mieux que moi. Vous avez la dose aujourd'hui. Hein. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Plus fondamentalement encore, dans ma démarche, suis-je animé par la loi, c'était ce qui animait ces hommes, hein, ou suis-je animé par la grâce, qui est une émanation de l'amour ? Ça, c'est une solide bonne question, ça. En précisant que nous pouvons oublier face à certaines situations difficiles, à accepter ou à gérer que la loi est aussi une grâce en ce qu'elle constitue un outil pédagogique entre les mains de Dieu, en ce qu'elle permet un diagnostic et ne réduit pas l'être qu'elle interpelle à sa maladie. Pour ceux qui auraient oublié, le péché est une maladie spirituelle grave. Elle est grave, cette maladie. Toute la Bible en parle, donc ça doit, de Genèse à l'Apocalypse. Donc, quelque part, c'est que ça doit être grave. Mais c'est une maladie. Et on ne résout pas un être à sa maladie. Si la loi de Moïse, la vérité, est pour nous uniquement un outil de jugement, ben, nous allons faire quoi ? Ben, nous allons juger l'autre au travers de notre démarche. Et en même temps, nous nous tirerons une balle dans le pied. Ou nous nous assommerons nous-mêmes à coups de pierre. On sera dans l'auto-lapidation au moment où on reprendra par jugement l'autre qui est sorti de la vérité. Chesterton, le célèbre romancier du 19e que j'aime beaucoup, l'a si bien exprimé, non sans une pointe de cynisme, c'est sa marque de fabrique. L'Église n'est pas justifiée parce que ses membres ne pêchent plus, mais parce qu'ils pêchent. Mon frère est à côté de ses pompes, comme c'est étrange. C'est un pêcheur. Nos larmes versées devant Dieu pour le péché de notre frère devraient être la première réponse face à la réalité de ce péché. Pleurer devant Dieu pour mon frère ou ma sœur, dans l'amour. Donc dans deux catégories, reprenons notre texte, en présence, la femme surprise en flagrant délit d'adultère et ses accusateurs souffrent donc du même mal. Tout comme nous, ils sont pécheurs. Ces hommes jonglant avec des pierres sont aussi pécheurs que cette femme. La différence entre les deux se situe au niveau de la perception qu'on en a, que j'ai de l'autre, et par la même occasion de moi-même. Parce que si je juge l'autre, j'ai une solide mauvaise perception de moi-même. Ça, il faut bien se le dire. Cette femme a été prise en flagrant délit. Autrement dit, son péché est passé des ténèbres à la lumière. Tout le monde est au courant. Ce péché est connu de tous. Ceux des hommes aux cailloux demeurent cachés. Voilés, qu'ils sont par le paravent de la religion et de leur propre justice. Alors, soyons clairs, on ne va pas trop charger la mule. Ces hommes aimaient la vérité de la parole. Ça, c'est certain. Et c'est très bien, encore une fois, il faut aimer la vérité, mais ils l'aimaient plus que leur prochain. Ils l'aimaient plus que cette femme. Et ça, c'est un solide problème. Ils avaient fait de cette perfection dans la vérité le sens de leur vie. Les évangiles les qualifient d'ailleurs à de nombreuses reprises de spécialistes de la loi de Moïse, ou même docteurs de la loi. La vérité était leur spécialisation. Et pourtant, Jésus dira au plus grand d'entre eux, rappelez-vous en Jean 3, à Nicodème, qui est l'enseignant d'Israël. Jésus l'appelle comme ça dans le grec, qui est un privatif. Tu es l'enseignant. Nicodème, c'est la crème. Il n'y a pas au-dessus. C'est une bête, théologiquement. Et Jésus lui dit, tu enseignes les autres et tu ne sais pas ça. Mais il lui dit quoi? En fait, tu sais que dalle, en fait, tu n'as rien compris. Et c'est l'enseignant d'Israël. Mes amis, le protestantisme, en remettant la parole au centre de tout, et à juste titre, n'a pas toujours su éviter, lui non plus, la tentation bibliolatrique. Aimer la lettre éperdument et, ce faisant, faire taire l'esprit. Mes amis, les enseignants du temps de Jésus et les pharisiens recherchaient la perfection dans la vérité. Ils voulaient être parfaits dans la vérité. La perfection dans la vérité ou sa prétention, cela porte un nom. Ça s'appelle le légalisme. Alors que la vérité de Dieu ne peut être qu'incarnée. Et cela ne peut se faire que dans l'amour. C'est d'ailleurs ce que Jésus a manifesté. Il y a donc à présent une autre réponse au péché que la mort. Il y a la grâce, et cette grâce est une émanation de l'amour. Il y a un avant et un après, et Jésus, en ce moment précis de la vie de cette femme, incarne ce changement. L'auteur de la lettre aux Hébreux l'avait bien compris, lui qui écrit, en Hébreux 7, verset 12, « Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. » Ça ne va plus être pareil. Désormais, ce n'est plus un homme pécheur qui représentera l'homme juif auprès de Dieu, c'est ce que faisait le grand prêtre lévitique. Ce sera, écoutez bien, ce sera Dieu lui-même, en la personne du Christ, qui représentera l'homme auprès de Dieu. On n'est pas dans le même film. C'est un changement radical de paradigme. Et c'est cela qu'incarne Jésus pour cette femme. Dorénavant, Dieu représentera l'homme auprès de lui-même. Je répète ça. Dieu représentera l'homme auprès de lui-même. Dieu fera rempart de son amour. Son amour rachète l'homme à sa justice. Qu'est-ce que fait Jésus physiquement dans cette scène ? Il s'interpose, encore une fois, il s'interpose entre la loi de Moïse incarnée par ces gens qui veulent tuer cette femme et cette femme. Il s'interpose, il se met entre. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est déjà ce qu'ils faisaient, hein, entre parenthèses. Hein. C'était se mettre entre le pécheur et la juste rétribution, la colère de Dieu. Plus loin, le même auteur persiste. Quand je vous dis qu'il faut lire Hébreu, hein, c'est pas pour rien que je vous dis qu'il faut lire Hébreu. Hein. Toujours dans le chapitre 7, que dit-il ? Il y a ainsi abolition, suppression de la règle précédente. Qu'est-ce que c'est la règle précédente ? C'est la loi. À cause de son impuissance et de son inutilité, c'est pas en tuant des gens à coups de pierre que vous allez régler le problème du péché de l'homme. Hein. Vous avez bien compris ? Ah oui, vous l'avez tué, c'est génial. Il ne pêchera plus celui-là, mais il y a un autre dans la file. Hein. Ça ne s'arrêtera jamais. Moi, j'ai des tendinites à force de jeter des pierres. Donc avant, j'ai arrêté parce que je m'aime trop. Ça me faisait trop souffrir. Donc je reprends. Soyons sérieux, surtout moi. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et c'est bien ce qui s'est passé pour cette femme. Dieu s'est approché. Elle n'a même pas dû le faire. C'est Jésus qui s'est approché. Dieu, en Jésus, s'est approché de cette femme. Donc la grâce incarnée par le Christ fait face à la loi incarnée par ces hommes. La seconde doit céder. C'est ce qu'elle va faire, ils vont tous se carapater. La parole de vérité, parce que c'en est une, hein, prononcée par Jésus, va donner la vie à cette pauvre femme et empêcher ses accusateurs de lui donner la mort. Jésus a empêché ces hommes de commettre un assassinat. C'est comme ça que ça s'appelle hein, dans toutes les langues du monde. Un assassinat. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'ils ont à nouveau l'occasion de réfléchir. Parce qu'ils s'ouvrent leur tête à eux avec. Hein. Tuer une femme, aux yeux de Dieu, c'est grave, mes amis. Hein. Ils doivent apprendre à ne plus être des chasseurs de paille, afin de devenir des porteurs d'amour. Amour dont cette femme a désespérément besoin. Parce que, et j'aimerais le rappeler, parce que je crois qu'on oublie tous, le comportement pécheur est un ersatz, la partie visible d'un iceberg, une compensation, une souffrance. Le péché, ça fait souffrir les gens. Ça ne les amuse pas. Je crois que nous perdons souvent conscience face au péché de l'autre, que ce péché le fait souffrir, l'abîme, dans certains cas même va jusqu'à le détruire, et que j'en suis persuadé à titre personnel, Dieu en souffre avec lui ou avec elle. Et que s'il faut dire le péché dans la vie de celui que nous aimons et nous devons l'aimer pour le lui dire, si nous lui devons cette vérité, il ou elle ne se réduit pas, encore une fois, à cette vérité, ne se résume pas à sa maladie. Vous savez, l'Occident chrétien, dont nous faisons partie, hein, même si on n'a pas choisi, a perdu beaucoup suite au schisme avec l'Orient chrétien. Perdu la vision d'un Christ médecin, proche de nous, osant nous toucher malgré nos plaies, nous guérissant et nous sauvant un jour à la fois. Parce que le pire de nos péchés est la manifestation d'un trouble encore à guérir et pas à punir. Et la source de ce trouble, ça j'en suis convaincu, est souvent à chercher dans le fait que nous n'avons toujours pas compris, au plus profond de notre être, que Dieu nous aime, qu'il ne fait que nous aimer. À la réflexion, ni la femme ni ses accusateurs ne sont des vivants. La femme comme ces hommes prêts à la lapider sont des morts vivants. Ils ont tous besoin de l'eau vive. Rappelez-vous, c'était le contexte, hein, j'ai expliqué ça la semaine passée. Ils ont tous besoin de l'eau vive proposée par le Christ. Alors la femme, je crois vraiment, va boire. Les hommes, non, en tout cas, pas là. Ils vont préférer le sable à l'eau, le désert à l'oasis, la mort à la vie. Le Christ a discerné la soif de cette femme au travers de son adultère, pas ses accusateurs, abreuvés qu'ils sont de leur certitude. Alors la question peut se poser, mais Jésus a-t-il dit la vérité à cette femme ? Ben oui. Que lui a-t-il dit ? Va et ne pêche plus. Ben, il sait très bien qu'elle a péché, il sait très bien. Enfin, même si ce coup-là, elle est innocente sur ce coup-là, elle a péché ailleurs, d'une autre manière. Pêcheur, elle est, comme tout le monde. Donc en évoquant le péché, il ne nie pas l'acte de cette femme, mais il l'en libère par la grâce. Et cette parole de vérité, c'est important de le relever, qui a fait toute chose nouvelle dans le cœur de cette femme, a été précédée par une autre parole, la plus extraordinaire qui soit, et nous devons la garder à l'esprit, surtout dans le cœur. « Je ne te condamne pas. La grâce précède toujours. Elle est toujours première. » L'amour est toujours premier. Vous devez dire la vérité, il faut que l'amour soit d'abord là, en premier. C'est-à-dire peut-être ce que certains des accusateurs de cette pauvre femme ont compris, peut-être. Selon tes propres termes, ta propre lecture de la vérité, de la loi de Moïse, tu devrais être mis à mort toi aussi, parce que tu es un pécheur toi aussi. Mais je t'aime, donc je ne te condamne pas non plus. Arrête de jeter des briques à tout le monde. Je te laisse aller, mais reçois l'eau que je suis seul à pouvoir t'offrir. Je ne sais pas si certains d'entre vous, ça connaissent, ont déjà entendu parler d'Abba Poemen. C'est un père du désert. Rino, ça je savais, mais les autres, je ne sais pas. Les frères vinrent un jour demander à Abba Poemen, le vieux sage de leur communauté, de le rejoindre à midi. Car ils avaient pris un frère en flagrant délit de péché, et ils désiraient le juger et lui infliger une sanction. Alors dites, le vieil homme arriva, portant sur son dos un gros sac pesant. En voyant cela, les autres frères, qui étaient bien plus jeunes que lui, forcément, se précipitèrent vers lui pour le délester de sa charge, pour l'aider. Ils remarquèrent immédiatement que le sac était percé et répandait derrière lui une traînée de sable. Devant les mines interrogatives de ses jeunes compagnons, le vieil homme leur dit « Ce sac représente tous les péchés que je traîne et sème derrière moi tous les jours. Et vous voudriez que je juge les péchés d'un autre ?» Il paraît que personne n'a été jugé ce jour-là. C'est étonnant, hein ? On demanda à un autre vieux moine, oui, les vieux moines, il y en a, c'est fou, hein, on demanda à un autre vieux moine, « Abba, qu'est-ce que vous faites ici dans le désert ?» Il répondit, « Nous tombons et nous nous relevons, nous tombons et nous tombons et nous nous relevons encore. » C'est la meilleure définition de la vie chrétienne que j'ai eue de ma vie, moi. Grâce à Jésus, plus personne ne devra mourir pour son péché, pour son entorse à la vérité, ni physiquement, ni socialement, ni psychologiquement, ni spirituellement, ni intellectuellement. J'ai envie de dire, surtout pas intellectuellement. C'est aussi cela que symbolise la présence de notre Seigneur auprès de cette femme. Alors, certains pourraient, malgré tout en entendant tout ça, pas vous, hein, je sais très bien que vous êtes magnifique et adorable, mais on pourrait éventuellement me reprocher d'être laxiste. Alors que moi, je sois laxiste, peut-être. Mais est-ce que Jésus l'était ? Ça, c'est pas sûr. Il nous montre au contraire, en fait, le seul domaine dans lequel il ne faut surtout pas l'être. C'est celui de l'amour. Le seul domaine où nous ne devions jamais être laxistes, c'est l'amour. Car l'amour est une puissance. Et c'est la seule disponible face à la dureté de notre cœur parfois. C'est la seule puissance disponible à Dieu. C'est même une non-puissance. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est même une non-puissance. Je vais m'arrêter là où je vais partir dans des... Voilà. Donc la question relative au péché de l'autre est donc toujours la même. Est-ce que Dieu aime cet homme ou cette femme, ou est-ce qu'il a arrêté de l'aimer à cause de son péché? La réponse est, il n'a pas arrêté de l'aimer. Alors moi je ne l'aime peut-être pas, ou pas assez, ou plus du tout à cause de ce qu'il ou ce qu'elle a fait. Mais ça, on s'en fout, hein? Dieu, lui, n'arrête jamais d'aimer. Et qui a-t-il sous la main pour manifester cet amour à celui qui est tombé ou qui fait n'importe quoi? Ben, il t'a toi et personne d'autre, souvent. Vous voyez que ça m'amuse parfois d'être en contact avec des cloches cosmiques. Cosmique, c'est gentil quand même. Il y a des moments, mais c'est un privilège incroyable d'être en contact avec autant de gens déglingués dont je suis le plus grand. Hein? Non, mais c'est vrai. C'est un privilège, mais il faut du temps pour comprendre ça, que c'est un privilège. Et là où nous trompons souvent, mes amis, c'est qu'on a l'impression, enfin c'est souvent inconscient comme mouvement, mais on pense qu'on est représentant de notre propre amour auprès de l'autre. Mais on n'en a rien à battre de votre amour à vous. Hein. Vous êtes le représentant de l'amour de Dieu pour l'autre. Votre amour, il est limité. Le sien est illimité. C'est de celui-là dont les gens ont besoin. Je ne suis pas un représentant de mon amour pour l'autre, mais le représentant de l'amour de Dieu auprès de l'autre. Et c'est dans ce sens que la chute de l'autre est une occasion d'examen intérieur pour nous-mêmes. Dieu aime ceux qui ne l'aiment pas. Dieu aime ceux qui ne l'aiment pas. Il ne risque donc pas d'arrêter d'aimer ceux qui, tous les jours, ont des manquements dans leur amour pour lui. Oui, mais moi. Mes amis, si la vérité est la lumière, et je le crois, alors l'amour en est l'interrupteur. La vérité ne peut pas être l'accomplissement de la loi. Il n'y a que l'amour qui le puisse et le soit. C'est ce que Paul dit. L'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. Vous aimez, vous accomplissez la loi. Autrement dit, et c'est à ça que je veux arriver, il a fallu le temps, hein. Je ne peux pas incarner la vérité. Je ne peux pas. Je suis un pécheur. Je ne peux pas incarner la vérité. Seul Jésus le peut. Mais, et c'est ce qu'il me demande de faire, mais je peux incarner l'amour et rendre ainsi témoignage à la vérité. Et quelle est cette vérité? C'est que Dieu n'est qu'amour. Vous avez besoin d'autre chose que d'être aimé, vous, objectivement. Vous êtes aimé, on s'en fout du reste. Hein. Quand on n'a que l'amour... Pardon. Je chante en plus, ça va être une... Bon. Donc comment puis-je incarner cet amour dans la pratique? J'ai écrit un bouquin de 800 pages, sinon je plaisante. Hein. Eh bien, en me mettant, encore une fois, entre Dieu et mon frère ou ma sœur, comme Jésus l'a fait et comme tous les prophètes l'ont fait avant lui, et me trouver dès lors en compagnie de Dieu lui-même, parce que c'est déjà là où se trouve Dieu. Le dramatique parfois dans les églises, c'est que c'est justement Dieu qui doit se mettre entre le pécheur et nous, alors que nous devrions toujours être du côté du pécheur. Je me rappelle, il y a des années de ça, j'étais dans une autre église, et un couple avait fait une grosse bêtise, soit. Donc ça laisse savoir, forcément. Quand la dame était enceinte, donc à un moment, ça laisse voir, donc il fallait faire quelque chose. Donc, décide avec les anciens de recevoir ce couple et de parler avec ce couple. Et alors j'arrive, pour une fois, je ne suis pas le premier. Je ne suis pas en retard, mais je ne suis pas le premier. Et j'arrive, donc il y a une grande table à l'étage. Il y a le couple d'un côté de la table et les deux anciens qui m'attendaient de l'autre côté en face, style tribunal. Ouais. Et moi, je rentre dans la pièce, il y avait plein de chaises, hein, et moi, j'ai pris une siège à côté du couple. Et là, les anciens m'ont regardé, interloqué. J'aurais simplement dit, dans tous les tribunaux, puisqu'apparemment c'est ce que vous voulez faire, il y a un avocat de la défense. Ben donc moi je suis l'avocat de la défense. Toujours. Après j'engueule parfois l'accusé, hein, ça c'est vrai. Mais je le défends quand même. Bible en main. Si l'on veut évaluer quelqu'un sur le plan spirituel, beaucoup de pasteurs s'amusent à ça. Bon courage, hein. Il faut le faire sur base de son amour pour l'autre. Cet amour qui est, nous dit Paul, l'accomplissement de la loi et le commandement que Jésus nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est le seul commandement qui nous est laissé. Est-ce vraiment mon amour pour l'autre qui va être ma motivation pour lui dire la vérité ? Parce que dans la pratique, ça va faire évidemment potentiellement toute la différence. Je peux en tout cas vous dire que ce n'est que si pardon, je vais recommencer. Je ne peux en tout cas vous dire que si ce n'est pas l'amour qui nous motive, le résultat est couru d'avance. Nous ne reverrons plus jamais la personne en question. Nous la perdrons définitivement. Il n'y a que l'amour qui nous permet de faire irruption dans l'obscurité de l'autre et d'allumer la lumière. Une personne peut déchoir de la vérité, mais en réponse, nous ne devons jamais déchoir de notre obligation d'aimer. Il faut que l'autre ne doute jamais de la motivation de notre cœur. Alors, vous me direz peut-être, et beaucoup me l'ont dit, hein, souvent, il faut protéger l'Église de certains comportements. Oui, c'est sans doute vrai. Mais là encore, lorsque nous sommes dans ce genre d'approche, de priorité, que protégeons-nous au juste ? Une certaine tradition ? Une certaine façon de faire Église ? Une peur primale que ce péché me révèle à moi-même sur ceux dont je n'ai jamais parlé à personne ? Que protégeons-nous ? L'illusion que tout va bien ? Que nous sommes meilleurs que cet autre qui est tombé ? Ou alors avons-nous peur de la contagion que l'impur contamine l'Église ? Moi, je pensais que c'était le pur qui rendait l'impur pur, moi, en fait. Donc, quand Jésus croise un lépreux, il pourrait le guérir à 300 km. Hein. Il n'a pas besoin de... Il touche. Qu'il le touche pour faire décoratif, indépendamment du fait que ce lépreux qui n'a plus été touché parfois depuis des années, être touché par un homme de Dieu, ça doit être un séisme intérieur invraisemblable. Il le touche pourquoi ? Pour envoyer le message. Les gars, l'Église, ouh, c'est nous. Vous allez rendre ce qui était impur pur, vous allez restaurer les gens à coup d'amour. C'est ça que vous êtes supposé faire. Chaque matin, alors je ne sais pas pour vous, hein, mais chaque matin, moi je sais qu'au moment où mon réveil sonne, il y a un pécheur et un saint qui s'éveillent en même temps. Et je ne suis jamais sûr de celui qui aura l'ascendant durant la journée qui s'ouvre devant moi. Je ne sais pas si c'est le saint qui va gagner cette journée ou si c'est l'autre. Cet épisode de la femme adultère est un face-à-face bouleversant et terrible entre la parole incarnée et la parole de la loi. La réponse au péché ne sera plus la mort, mais la vie en Christ. L'amour de Dieu va absorber sa justice. Dieu est en même temps l'assaillant et le défenseur des pécheurs. Il le combat par sa justice et le défend par son amour. Nous devons incarner la grâce, nous ne sommes capables que d'incarner la grâce, pas la vérité. Elle sera toujours, jusqu'à un certain point, étrangère à ce que nous sommes. Moi, je potasse les textes bibliques depuis plus de 30 ans. Je sais beaucoup de choses, et en fait, je sais une chose, et je vous assure que c'est vrai, je ne sais rien, à part une chose, même si je ne le vis pas encore, c'est que Dieu m'aime. Et le reste, je m'en fous. Parce que j'ai besoin que de ça, et vous avec. Non, ça je l'ai dit. Nous devons donc oser choisir la foi. Il faut du courage pour ça, on a tous été enseignés dans d'autres cadres parfois. Nous devons oser choisir la foi en un Dieu essentiellement amour, pour que la vérité se fasse jour pratiquement en nous et que l'Évangile soit véritablement une bonne nouvelle pour tout le monde. Parce que si vous vendez un Dieu autre qu'un Dieu d'amour, ça va vite finir par ne plus être une bonne nouvelle, mes amis. Dieu t'aime, hein, mais il va t'envoyer en enfer si tu ne l'aimes pas. Ça, c'est une solide bonne nouvelle, ça. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis content que tu m'aies parlé de ce Dieu-là, comme ça au moins je peux le fuir tout de suite. Quoi. Quand nous sommes, ça nous arrivera, hein, et ça nous est tous arrivé déjà, je pense. Quand nous sommes debout, Seigneur, devant celui ou celle qui est tombée, n'oublions jamais que c'est au pied de Jésus qu'il est tombé. Et que de là où nous sommes parfois pour juger cette personne, Jésus, lui, est au niveau de la personne pour la relever. Il se tient à ses côtés, pas à nos côtés. N'oublions pas non plus que c'est tous les jours que notre Seigneur nous dit cette même parole à nous, « Va et ne pêche plus ». Tous les jours, il le dit. Tous les jours, il me le dit. Faisons donc de l'amour de Dieu l'outil de notre exégèse, non seulement de la Bible, mais également de la vie de l'autre et de notre propre vie. Je termine, enfin, par ce texte d'un vieux, aussi d'un très vieux, d'Isaac de Ninive, évêque de la ville du même nom, vivant au 7e siècle et devenu ensuite, parce qu'il avait compris, ascète dans le désert iranien. Il n'est pas beau. Qu'est-ce qu'un cœur compatissant? C'est un cœur qui brûle pour toute la création, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons et pour toute créature. Lorsqu'il pense à eux et lorsqu'il les voit, ses yeux versent des larmes. Si forte et si violente est sa compassion, et si grande est sa constance, que son cœur se serre et qu'il ne peut supporter d'entendre ou de voir le moindre mal ou la moindre tristesse au sein de la création. C'est pourquoi il prie en larmes à toute heure pour les animaux sans raison, pour les ennemis de la vérité, et pour ceux qui lui nuisent, afin qu'il soit gardé, qu'il soit pardonné, dans l'immense compassion qui se lève en son cœur, sans mesure, à l'image de Dieu. La revendication de connaître Dieu ne peut passer qu'au travers de la seule réalité qui n'aura jamais de fin, l'amour. Vous revendiquez la vérité de connaître Dieu, mais il faut le faire, hein. Vous pouvez le prouver comment, en aimant. L'amour authentifie la validité de la foi et la force de l'espérance. Il y a un certain Paul, et je conclue en disant ça, il y a un certain Paul qui disait « Aujourd'hui, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. »